Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme pour cette troisième séance des rencontres livres en dialogue de l'année 2025. Comme vous le savez peut-être, ce cycle donne rendez-vous une fois par mois pour découvrir les nouveautés des éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Avant de vous présenter nos intervenants ce soir, quelques mots d'introduction pour vous présenter la Fondation. Créée il y a plus de 60 ans par l'historien Fernand Braudel avec la volonté de soutenir la recherche en sciences humaines et sociales et de diffuser la connaissance produite par les chercheurs du monde entier, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme est reconnue d'utilité publique et travaille chaque jour à partager les savoirs et à faire comprendre que les sciences humaines et sociales sont des sciences à part entière. Sachez qu'une partie des programmes de la Fondation est subventionnée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. D'autres projets reposent sur des soutiens philanthropiques. Nous sommes donc habilités à recevoir des dons. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter la première biographie de la vie de Zygmunt Bauman, auteur d'une œuvre intellectuelle majeure, longtemps restée méconnue du public français. Cet ouvrage est paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme dans la collection 54, en septembre 2024. Vous pourrez donc vous le procurer juste à côté au comptoir. Isabella Wagner, vous êtes professeure d'anthropologie et de sociologie des migrations à l'Université Paris-Cité, ethnographe. Vous avez étudié le monde social des virtuoses dans la musique classique et celui des chercheurs. Vous avez plus précisément analysé à travers vos recherches les mondes sociaux des artistes et des intellectuels en mettant l'accent sur les carrières, les collaborations, le travail créatif et la discrimination dans le contexte de la migration professionnelle hautement qualifiée. Ulysse Manès, merci beaucoup d'avoir accepté d'animer cette rencontre ce soir. Vous préparez une thèse à l'École normale supérieure sur l'humour anti-romantique en Europe centrale. Vous programmez et vous animez la série d'émissions Voix d'Europe centrale sur France Culture et vous contribuez à divers journaux et revues. Vous animez régulièrement des rencontres culturelles, musicales, littéraires et philosophiques. Et vous êtes aussi auteur-compositeur, interprète des chansons françaises et vous collaborez avec divers artistes de la scène française. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors nous aussi, nous sommes habilités à recevoir des dons, Isabella et moi.
Ça, c'est une bonne surprise, ça commence bien. Merci.
Je suis très heureux d'animer cette conversation. Alors j'avais moi-même préparé un petit texte d'introduction où je présentais Isabella Wagner, mais ça vient d'être fait, en tout cas sur le parcours général. Et alors j'ai pour habitude, normalement, quand j'anime des rencontres, de proposer d'abord une citation qui ne vient pas du livre dont on va parler, mais qui nous met un peu dans le bain. Et donc je suis tombé, en lisant donc cette biographie absolument géniale, sourcée, qui a pris, j'imagine, un temps colossal, tu vas nous raconter. Alors je propose qu'on se tutoie comme dans la vraie vie, à moins que les conventions fassent comme à France Culture, qu'on se vouvoie. Alors on se tutoie à France Culture, et dès que le micro commence, on se dit vous. Bon, là peut-être qu'on peut rester dans le tu. Donc, en lisant cet ouvrage vraiment si fourni, j'ai repensé à une formule du journal du Hongrois Sándor Márai, qui a connu l'exil longtemps, puisqu'il a fui la Hongrie soviétique. Il est parti en Italie, puis aux États-Unis, à San Diego. Et alors, à un moment, il écrit dans son journal quelque chose sur les intellectuels hongrois juifs qui ont connu l'exil. Et il dit, et je pense que ça nous met dans le bain tout de suite, sur le cas Bauman. Je commence à comprendre les écrivains hongrois juifs qui sont partis dans le vaste monde depuis les années 20 et 30 et ne sont jamais revenus. Molnár, Biró, Lengyel et quelques autres. À l'exception de Molnár, ces écrivains n'étaient peut-être pas de grands écrivains, mais assurément ils étaient de bons Hongrois. Un jour, on leur a interdit de l'être. C'est ainsi que, au cours des décennies, la société hongroise a contraint ses meilleurs esprits et ses citoyens les plus précieux à un exil intérieur ou extérieur. On ne peut demeurer éternellement harcelé au sein d'une société et on ne peut pas être artiste, savant ou écrivain contre la volonté d'une société. Moi aussi, j'ai eu des succès dans mon pays, mais en réalité, j'ai toujours été obligé d'écrire et de vivre en opposition avec la société hongroise nationale. Et en repensant à ça, c'est fin de citation, ça vient du tome 2 du journal de Márai. Je trouve des thèmes déjà, l'exil, le judaïsme et le conflit des écrivains avec leur propre nation. Voilà, c'est un thème très vaste d'abord, mais Isabella, quelle serait ta réaction sur ces grands thèmes d'abord, et ensuite on viendra dans le détail, on rembobinera.
Bonsoir, et merci beaucoup pour cette question. C'est tout à fait très sociologique de dire qu'une biographie singulière, hein, ça représente quand même un groupe, une génération ou une catégorie bien précise. Et c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire, bien souvent, quand on a affaire aux travaux des, qui sont centrés sur les exilés intellectuels, exilés des Pologne, on a l'impression c'est que des Polonais, c'est comme ça. Ou Hongrois, ah oui, c'était que Hongrois, c'est comme ça. Et chacun présente son histoire. Mais en fait, non, c'était comme ça dans beaucoup d'endroits. Et c'est bien une population qui excellait, qui était élite intellectuelle de ces pays de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, qui était amenée à partir, qui était obligée de partir des manières plus ou moins dramatiques. C'est, le départ, l'exil, c'est toujours dramatique. Et pour ceux qui travaillent et qui sont ancrés dans une langue, c'est d'autant plus dramatique que vous partez et comment vous allez écrire. Et ça prend du temps. Pour certains, jamais ça n'arrive. Pour d'autres, ça prend des années. Pour Bauman, c'était par exemple 10 ans de vie en Angleterre. Alors qu'en 1956, comme jeune étudiant, il a été pendant un an poursuivre ses études à London School of Economics. Donc, il était parfaitement anglophone, etc. Mais pour écrire, s'exprimer, il m'a dit, mais on s'exprime avec des mots. Et si on connaît 2000 mots, ben, on va s'exprimer pas pareil que si on connaît 10 000 mots dans une même langue. Donc, c'est ça qui m'intéressait aussi dans son parcours, c'est qu'il représentait quand même un idéal type, comme on peut dire, de beaucoup d'intellectuels, de non seulement de cette génération, parce que malheureusement, certaines parties du monde produisent ces purges et ces expulsions en continu, quasi continu.
Et d'ailleurs, quand tu dis que c'est un idéal type de l'écrivain centre-européen exilé, il dit lui-même, ça je crois que c'est dans la conclusion du livre, finalement, je suis un produit de ma génération, etc. Mais il le dit presque avec un certain cynisme, une autodérision, ou peut-être une clairvoyance, je ne sais pas.
Oh, tout à la fois, Bauman, il adorait les conversations, séduire son public, et il disait, il était à la fois modeste, mais aussi tout à fait conscient de ce qu'il représentait, de son travail. Et il doutait beaucoup aussi en son travail. Oui, oui. C'était son livre Ambivalence, c'était quelque chose qui lui a accompagné, réflexion sur ambivalence toute sa vie. Et là, il dit que son parcours, il dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans les entretiens, mais aussi dans ses écrits, mais c'est rien de particulier, mais il y avait énormément de gens comme moi, des millions de personnes dans ma situation qui étaient obligées de faire face à ce qui nous arrivait. Donc, il a tout à fait conscience que la grande histoire détermine la vie humaine. Et on fait ce qu'on peut avec, donc ce n'est pas contraire. Tout ce qui est agentivité ou agency, pour lui, ce n'était vraiment pas comme ça qu'il faut voir une vie humaine.
Et dernière question avant de parler maintenant de ta rencontre avec Bauman. Tu évoques l'exil et la langue. Est-ce que Bauman a constamment écrit en polonais ou est-ce qu'il a fini par... Enfin, moi, je sais, c'est une question rhétorique, parce que quand on lit ton livre, on le sait. Est-ce qu'il a fini par se convertir à d'autres langues?
Alors, Bauman, il était très doué pour des langues. D'ailleurs, c'est ça qui est très facile pour un biographe ou une biographe quand on a quelqu'un qui a plusieurs facettes. Il était d'abord polonophone. Très tôt dans sa vie, comme tout un enfant juif qui va faire sa bar mitzvah, il était enseigné les rudiments de hébreu. Et il a été dans une partie de Pologne qui parlait allemand, donc il était exposé à l'allemand. Mais au lycée, il a pris les cours d'anglais. Moi, j'étais surprise quand je regardais dans ses bulletins scolaires avec ses notes, etc., qu'il était élève en anglais. Dans les années 30, en Pologne, c'était très rare. C'était plutôt aux Français qui devaient choisir, mais bon. Après, puisqu'il était exilé, il s'est enfui avec ses parents à l'âge de 14 ans en Union soviétique. Il va à l'école et tout de suite, il faut parler Et là, il y avait un problème. C'est l'unique langue qu'il avait vraiment une opposition à apprendre, c'était biélorusse. Pourquoi ? Parce qu'il était en face d'un nationaliste biélorusse, le directeur, qui lui a dit, mais écoute, il est novembre, c'est novembre, si en janvier tu ne parles pas parfaitement biélorusse, je te vire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est viré lui-même, c'est-à-dire il a changé le lycée où on parlait russe. Et là, il apprend russe à partir des Pravda, donc les journaux très communistes, plus communistes que communistes. Et il est parfaitement russophone jusqu'à la fin de sa vie. Il rentre dans la culture russe, il lit les classiques en russe, il va même à l'université apprendre le physique en russe. Enfin, il est parfaitement russophone. Quand il rencontre sa femme, il est exposé à la francophonie, parce que sa femme, elle était parfaitement francophone, comme beaucoup des filles de bourgeoisie, haute bourgeoisie polonaise, c'était la langue qu'on parlait. Elle, elle a travaillé même, elle a travaillé dans les films, et elle a eu, elle était responsable des traductions, etc. Et ensuite, donc, il réchauffe son anglais quand il part à Londres. Et, mais ce n'est pas là où, encore où il écrit en anglais, il continue à écrire en polonais. Il parle très bien tchèque parce qu'il a beaucoup de contacts avec les sociologues tchèques. Ensuite, quand il va en Israël en 1968, déjà avant, il reprend hébreu. Et j'ai parlé avec des personnes qui étaient ses étudiants et ils ont dit qu'ils étaient stupéfiants parce qu'au bout de quelques mois, il faisait les cours en hébreu. Sa famille m'a dit cependant qu'il écrivait en phonétiquement, enfin avec les lettres de l'alphabet latin, mais c'est quand même un très très grand effort. Et anglais, il commence à écrire, je vous ai dit, 10 ans seulement après qu'il a aménagé. Donc en 1981, il dit c'est là où j'écrivais en anglais directement.
Et yiddish ?
Ah non. Pas d'yiddish. Pas d'yiddish. Yiddish, c'était la langue de ses grands-parents. Ses parents, ils étaient. On parlait, hein, ses deux parents parlaient yiddish, mais c'était une langue qu'on parlait quand on ne voulait pas qu'ils sachent quelque chose. C'est très classique pour sa génération. Il n'était pas non plus exposé au Bund. Bien qu'il était dans Hashomer Hatzair. Hashomer Hatzair, pour ceux qui ne savent pas, c'est les scoutisme socialistes, les idées socialistes, passionnistes, mais en yiddish justement, c'est-à-dire avec une idée, la communauté juive a sa place dans chaque pays où la communauté juive vit comme les citoyens à part entière, mais on peut cultiver notre langue et on a des écoles, littérature, etc., etc. Donc Bund était parti politique.
Il est resté fidèle d'ailleurs à cette à la vision de cette association.
Pardon, Hashomer Hatzair, non, il y a une différence parce que là j'avais dit pourquoi il n'a pas été exposé au yiddish parce qu'il n'était pas justement dans le Bund. Toute la communauté des jeunes qui allaient dans Hashomer Hatzair était exposée au l'idéal des allants en Israël. Mais c'était toujours socialiste, c'est ça qu'il faut voir, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de partis, organisations, etc. Il y avait certaines sionistes, et lui, sa première orientation politique, si on peut dire, de ça à quelqu'un qui a 13 ans, c'était justement Hashomer Hatzair, c'est-à-dire préparant notre vie dans un kibbutz, en Palestine, allons-y, etc. Et c'est pourquoi aussi, là-bas, il y avait un effort de parlons-en, pas yiddish, mais parlons-en hébreu. Mmh. C'était une autre orientation politique, une autre projection, un autre plan pour la vie.
Alors, nous rembobinons un petit peu. Question un peu classique pour poser le décor, mais la première rencontre avec Bauman et comment est né le projet colossal de ce livre et quand ?
Alors, première fois, je l'ai vu en 2011, il inaugurait l'année universitaire dans une université associative en Pologne, un Collegium Civitas à Varsovie. Je l'ai vu de loin, je n'ai pas parlé avec lui. Et j'avais beaucoup de recul dans un sens où, pendant ma formation doctorale, on ne nous a pas enseigné Bauman parce qu'il n'était pas connu en France. Cependant, mon directeur des thèses que je salue ce soir, Jean-Michel Chapouli, avait dit c'est quelqu'un qui a écrit très bon bouquin sur Labour Party. Et il dit, c'est rare, c'est vraiment un très bon bouquin. Et je me suis dit, ah, ça devait être quelqu'un qui était bon, parce que si mon directeur de thèse dit ça, ça veut dire que c'était très, très bon travail. Mais je connaissais les travaux de sa femme, puisqu'elle, elle a écrit deux livres qui sont livres de témoignages sur les Shoah, les premiers, parce qu'elle a survécu au ghetto de Varsovie. Après, elle était cachée à Varsovie. Et je recommande à tout le monde, c'est... Winter in the Morning, je ne sais pas le titre en français, c'est aussi...
On peut le retrouver.
Oui, ça je...
Il y a beaucoup d'extraits d'ailleurs dans le livre qui sont...
Voilà, splendides. Donc elle raconte son expérience de jeune fille, tout le monde connaît Anne Frank, le journal, c'est aussi un journal, c'était à la mode, beaucoup de jeunes filles écrivaient ce qui leur arrivait, et puis voilà. Et c'est une histoire d'ailleurs qui est très touchante parce que j'ai vu Bauman la première fois où on a pu converser chez lui à la maison, donc c'est 2013, parce que j'avais une idée, quand j'étais formée en sociologue de travail, de faire avec lui un long entretien sur comment il a travaillé et sur sa carrière qui était époustouflante de point de vue. Enfin, c'était très, très exceptionnel parce qu'il a... Il a été reconnu mondialement et très visible en dehors des champs académiques, alors qu'il était retraité. Et il était très populaire. Je sais qu'en France, ça se voit pas, mais vous allez en Italie, dans chaque librairie, vous voyez plein de ses livres. Vous allez en Portugal, c'est la même chose. Espagne, c'est la même chose. Brésil, c'est la même chose, etc. Donc, il y a des pays où vous voyez pas sociologie, où vous voyez Bauman dans les librairies et vous pouvez acheter plein de ses livres. Même en Chine, j'ai vérifié après, partout où j'allais, j'ai vérifié est-ce qu'ils vendent Bauman à part. Et puis, oui, il est très populaire. Alors, quand j'ai fait justement l'entretien avec lui à Leeds, en sortant, je lui ai demandé la permission d'aller dans les archives des polices secrètes. Tout à l'heure, on va en parler peut-être sur ces thèmes-là. Et il m'a dit oui, de toute façon, vous avez les droits, vous pouvez y aller. J'ai demandé quand même parce que c'est des archives qui contiennent beaucoup de choses qui sont... aujourd'hui, à l'époque de MeToo, on m'aurait dit c'est une mine d'or, mais tout n'est pas vrai. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est très délicat comme archive. Et il m'a dit, mais si vous allez là-bas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez regarder, parce que je cherche, on nous a réquisitionné les journaux de ma femme en 1968. C'était une valise unique qu'il leur ont pris, et c'était la valise avec ses manuscrits, manuscrits à elle. En 68, c'était interdit de sortir les manuscrits parce que le gouvernement supposait que vous quittez la Pologne avec les choses interdites, etc., etc. Donc c'était interdit. Et les pages des cahiers, c'est 700 pages des cahiers écrits d'une écolière qui ont disparu alors qu'elle a réussi à les sauvegarder pendant l'insurrection de Varsovie, d'abord les ghettos, ensuite l'insurrection de Varsovie, etc. Donc c'était quelque chose de tragique pour toute la famille. Et quand vous savez que son livre, il est écrit en partie basé sur ses archives, sur ses journaux, c'est parce que sa mère a recopié des parties des journaux avant encore 68. Parce que sa mère, elle avait tout de suite eu l'idée que ça va être publié un jour, que c'est quelque chose de très précieux. Donc, elle les recopiait. Donc, je les ai trouvées, ces pages. Et ça va paraître probablement l'année prochaine en polonais.
Ah oui.
Oui, déjà, la famille a travaillé là-dessus, etc. Les historiens attendent cet événement. Et après, quand je suis allée dans les archives des IPN, j'ai vu énormément de documents qui enlevait de Bauman le blême et puis toutes les accusations que aussi mes collègues sociologues, historiens, une partie de la société universitaire polonaise lui attachait pour sa collaboration avec les pouvoirs communistes, pour les choses horribles qu'il a commises, etc.
Fin,
etc. Ouais. Ça l'a poursuivi jusqu'à la fin. Et moi, ce que je retrouve dans les archives, c'est tout à fait contraire. C'est les preuves qu'il a été de l'autre côté et qu'il a jamais peut-être voulu ou qu'il a jamais, que jamais les retournements de cette image-là s'étaient opérés. Parce que ceux qui l'ont écouté, qui ont travaillé avec sa sociologie ou qui l'ont invité en Pologne après, Il passait en silence. En fait, personne n'a osé affronter. Tout le monde disait, ah, peut-être il y a quand même quelque chose derrière, puisque cette image, il est si noir. Donc, en voyant ça, je me suis dit, c'est pas possible que toute la communauté académique reste complètement aveugle en face de ces documents-là. Et donc, j'ai décidé d'écrire. J'ai mis 6 mois à chercher ce que mes collègues, quelqu'un n'écrit pas, parce que je me sentais pas spécifiquement historienne, etc. Je l'ai fait avec les outils d'abord de sociologie du travail, etc. Mais personne, à tout le monde a dit ah non non ah non non.
Ça etc. a commencé en 2011, hein, c'est ça, 2011-2012.
Non, là c'est, on est déjà 2013 parce que 2013. C'est là où je suis rentrée dans les archives et c'est là où je me suis dit ce n'est pas possible en face de ces documents là rester comme ça.
Alors justement, avant de commencer cet entretien, tu m'as dit que tu tenais vraiment à aborder la question des archives parce qu'il y a notamment tout un chapitre qui est structuré là-dessus. Est-ce que tu peux le détailler un petit peu?
Alors, c'est les chapitres où je raconte qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'ils soient expulsés et comment les services ont produit de lui un idéal type d'un traître, d'un ce qu'on appelait judéo-bolchevique, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant, mais à l'époque, d'un traître, d'un sioniste. C'est-à-dire comment on l'a poursuivi. Comment on a regardé. C'est un archive qui est très très riche. Vous avez des fragments des papiers, des délations anonymes, donc un truc très classique. Vous avez les rapports. Vous avez ces étudiants, certains de ces étudiants, qui sous le nom des codes ont décrit mot par mot ce qu'il a dit pendant des conférences. Vous avez ses cours. Vous avez les revues sociologiques extrêmement bien détaillées et très bien faites d'ailleurs. Où on lui dit, et là c'est incroyable parce qu'on peut voir aujourd'hui des pratiques très très connues, qu'on compte combien de fois vous citez un tel auteur, là on lui reproche qu'il ne cite pas Lénine, qu'il ne cite pas Staline, qu'il n'est pas assez communiste, qu'il n'est pas assez marxiste, qu'est-ce que c'est que ces marxistes, etc. Et pourtant il cite Parsons, il cite les autres, les Américains, et qu'il cite aussi par exemple Ossowski, qui est un très très grand sociologue polonais, qui était considéré comme réactionnaire ou n'est pas vraiment avec ce marxisme orthodoxe qui était prêché, alors que Ossowski, il était socialiste, mais un socialiste avant la guerre, etc., etc.
Un visage humain.
Et voilà, et tout ça, c'est marxisme. On parle de marxisme orthodoxe, tel qu'il était prêché par la partie et exigé par la partie, ou marxisme, ce qu'on appelait un visage humain. Et ça, c'est un marxisme que Bauman, il était chanceux. Et là, je parle beaucoup de son directeur de thèse, de Horfeld, qui était, d'ailleurs, qui est décédé à Paris. Il était le directeur du département des sciences à UNESCO et qui était un homme, un socialiste. Avant la guerre, un manque de chance à cause d'antisémitisme, il ne pouvait pas être prof à l'université. Il était ici d'ailleurs à Sciences Po avant la guerre, etc. Après la guerre, il revient en Pologne parce que c'est, enfin, il n'y a plus de discrimination. Mais très très vite, il n'est pas vraiment d'accord. C'est-à-dire officiellement, il montre qu'il est avec la partie communiste, mais chez lui, dans ses cours, avec les étudiants, on apprend beaucoup d'autres choses. Et Bauman, il est formé comme ça. Il a de la chance parce qu'autant à l'armée qu'ensuite à l'université, il est sous directe exposition des communistes ou des socialistes. Mais si c'est des communistes, c'était des gens qui étaient qui ont participé pendant la guerre en Espagne, qui s'est battu avec Franco. Donc, c'est des gens qui sont complètement en opposition après... avec le stalinisme. C'est ça que je voulais dire. Que le mot communisme en Pologne, il a donc ces deux facettes. Pendant longtemps, on ne savait pas très très bien lesquelles des deux va être choisi. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire avec cela. Donc Bauman, il n'est pas staliniste ni à l'armée. D'ailleurs, ça se voit justement dans ses archives. J'ai récupéré les archives où on le juge pas fiable.
Comme tous, hein, Gombrowicz, Kolakowski, Miłosz, enfin tous les Polonais. Et d'ailleurs, bon, cela dit...
Kołakowski, à un moment
oui,
donné...
On y reviendra à Kołakowski, parce que c'est un livre sévère à l'égard de Kołakowski aussi. Mais la question que je voulais poser, c'est que ces archives-là ont pesé sur sa biographie jusqu'à la fin. Et aujourd'hui encore, on voit que ça persiste sur l'image, sur je sais pas, l'imaginaire collectif qu'on se fait de Bowman. Il y a cette déformation. C'est un homme clivant, un peu sulfureux. Est-ce que c'est le poids de ces accusations ?
Oui, parce qu'on lui reproche qu'il ne s'est pas excusé. Et il disait toujours, mais de quoi je devais m'excuser ? Les projets communistes après la guerre, c'était unique qui pouvait être soutenu par quelqu'un qui était honnête et qui n'était pas, disons rapidement ici, capitaliste, n'est-ce pas ? La Pologne avant la guerre, c'est la pauvreté, c'est des maladies qui sont terribles, les enfants qui sont sous-nourris, c'est exploitation, c'est vraiment un pays très très pauvre et analphabétisme. Sauf dans la communauté juive, évidemment, mais partout ailleurs, un analphabétisme qui est poussé. Qu'est-ce qui se passe avec la promesse communiste ? Qu'est-ce qu'on arrive ? On arrive à quand même réduire cette pauvreté-là. Tout le monde était pauvre, c'est un peu différent, mais n'est pas pauvre jusqu'à ce niveau-là qu'il y avait avant la guerre. Donc on voit tout de suite, après la guerre, certaines décisions qui font qu'il n'y a pas de capitalisme et ça marche autrement et on pouvait croire que le pouvoir va défendre ou protéger. On pouvait croire, je ne dis pas que c'était vrai, la communauté juive ou des minorités. Donc, et après, Bauman, il disait, mais moi, je n'ai rien fait. Et on lui a dit, mais alors prouve. Alors, c'est-à-dire, il faudrait que lui, il fasse mon travail. Mais il avait d'autres livres à écrire. Il s'adressait au monde entier. Ses histoires polonaises, c'était des histoires polonaises. Et en plus, mais il était accusé, mais il se sentait absolument pas. Enfin, c'était le problème de ceux qui accusaient. C'était pas. Donc moi, je comprends très très bien cette attitude-là. Et il voulait surtout pas aussi être victime. Parce que rentrer dans ces jeux-là, ça veut dire que vous perdez un an, deux ans, beaucoup de stress, etc.
Je cherche une citation, mais évidemment, je la retrouverai à la fin de notre conversation. Quand je serai chez moi ce soir, je dis, merde, c'est là. La question qui me vient, c'est que ça révèle, le parcours de Bowman révèle aussi la complaisance, ou en tout cas la manière dont les intellectuels, les universitaires, les académistes se sont quand même, tout au long du XXe siècle, engouffrés dans les idéologies. Dans un certain dogmatisme, et on voit que Bauman en a souffert, mais beaucoup d'autres, et ça me fait penser à une formule de Serge Moscovici, le père de Pierre, qui était un immigré roumain. Alexandra Linel-Lavastine lui a consacré un ouvrage il n'y a pas longtemps, et il dit à un moment, la même eau de la bêtise coule dans les rues, je ne sais plus quoi, et dans les égouts de l'école normale supérieure. Parce qu'il disait, il y a toujours eu l'adhésion des intellectuels et des universitaires aux idéologies dominantes.
Et oui, c'est probablement notre talon d'Achille. Ce n'est pas seulement talon, parce qu'on dirait que c'est parfois toute une jambe ou tout un corps. Hein. Oui, certainement. Et par contre, ce qui est pour moi révoltant quelque part, c'est que on peut dire que quand vous êtes sous un régime dictatorial, vous avez votre famille, vous devez gagner votre vie, etc. C'est que ça, on peut, je dis pas, on peut comprendre. Ce qui était pour moi très très scientifiquement révoltant dans un sens où les archives IPN sont ouvertes, ce sont des archives des polices secrètes. On avait de la chance comme en RDA, encore mieux, c'est-à-dire chaque journaliste et chaque chercheur, chercheuse peut aller là-bas et gratuitement consulter les archives. Du moment où vous travaillez, vous consultez ces archives-là. Comment ça s'est fait qu'au moment où il y avait les projets en 2006-2005, que Bauman, il va obtenir les renouvellements des doctorats, c'est équivalent au doctorat honoris causa à l'université de Varsovie, donc c'est son alma mater, son amour, son... Sa maison, c'est là où il était le plus heureux intellectuellement. En tout cas, c'est comme ça qu'il a vu toute sa vie en faisant le bilan dans l'entretien avec moi. On lui refuse ceci parce que quelqu'un de cette archive-là, vous savez, là-bas, la partie au pouvoir a instauré des positions des historiens qui travaillaient, qui, on leur disait, trouve ce truc sur ce lieu-là, tu trouves tout ce qu'il faut. Et on savait comment il faut décrire pour complètement mettre la personne, enfin, une image complètement corrompue, etc., etc. Et il y a un article qui apparaît tout de suite et tout le monde se pose même pas la question pour vérifier l'interprétation. Et on voit, moi, en lisant ça, sans avoir préparation, je pouvais tout de suite réfuter plein de choses, plein d'éléments, parce que c'était pas cohérent, c'était pas mis dans le contexte, c'était pas expliqué, etc. Donc il suffisait de vraiment, c'est pas très sophistiqué, des outils qu'on utilise pour mettre en doute qu'est-ce qu'on nous propose. Mais alors voilà, c'est une idéologie après les retournements des pouvoirs en Pologne anticommuniste, parce que tout d'un coup, tout le monde est devenu, presque tout le monde, allergique aux idées des gauches. Donc tout ce qui était communiste, c'était très mauvais, et avec ses jugements de valeurs, et avec cette condamnation totale et intellectuelle, même pas une idée de compréhension, ou aucune finesse, c'est vraiment noir et blanc et très idéologique. Et là, je m'excuse, mais là, on n'est pas dans un univers scientifique, on est dans un univers complètement idéologique et ça ressemble. Moi, j'appelle ça toujours Wissenkism. Wissenko qui a trouvé une nouvelle génétique et seulement Wissenkism en Pologne, il avait très très peu d'impact parce que les profs, les bons profs de biologie, il organisait chez eux, à la maison, les cours pour les étudiants. C'est-à-dire, à l'université, vous allez aller au cours de génétique Wissenko, et après, 19h, chez les profs, dans les petits comités, et là, une vraie génétique telle qui était enseignée. Ah bah, donc, il y avait double...
C'était la culture de la clandestinité, du samizdat, et au même titre que... Et là, je m'adresse à la musicologue que tu es, vos musiciennes musicologues, on sait aussi que, par exemple, le blues et le rock en Hongrie, en Tchécoslovaquie, etc., se faisaient dans les caves de Prague ou de Varsovie, pendant que dans les rues, officiellement, il y avait la musique soviétique, kitsch, les orchestres d'enfants radieux. Donc oui, il y a une vraie culture de la clandestinité avec les séminaires clandestins.
Tout à fait.
Voilà, les Patochka d'ailleurs faisaient ça en Tchéquie, entre autres.
Bah, c'est des siècles d'envahissement qui ont fait que les pratiques de ce type-là étaient très très facilement organisables parce que les gens, ils savaient comment ça s'est fait. Mmh. Par contre, justement, après 89, c'est comme si dans la Pologne libre, et là, on peut mettre les guillemets si on veut, toute cette vision que ça peut être beaucoup plus nuancé que ça, etc., a complètement disparu, ça s'est évaporé. Et c'est là où on a un problème. L'autre chose que je voulais dire, et ça, peut-être on va en revenir, parce qu'on n'a pas encore dit les mots-clés, je crois que c'est les mots principal de ce livre-là, c'est pas la vie de Bauman. Et d'ailleurs, les amoureux de Bauman, ils me reprochent ça. On me dit, mais pourquoi écrire un truc comme ça alors que c'est un livre sur antisémitisme?
Exactement. On y vient.
On y vient.
Je voulais te poser une question sur la Pologne avant pour glisser sur l'antisémitisme.
Bon, vas-y, alors.
Parce que, en fait, moi, je dirais que c'est quand même les deux grands thèmes. C'est quand même la relation. En fait, j'avais posé une question là. J'avais écrit, question rhétorique, encore une fois. Bauman est-il finalement plus... attention, c'est une fausse question. Hein. Juif, polonais ou européen? Pour montrer qu'il y a une articulation, évidemment. Alors, dans la Pologne, sur la relation à la Pologne, tu écris, page 37, « Être polonais ne signifiait pas garder les frontières déjà bien formées et définies, mais plutôt dessiner les frontières encore inexistantes, en faire des réalités plutôt que de les exprimer. » Il y avait dans la polonité une traînée constante d'incertitude jusqu'à nouvel ordre, une sorte de précarité provisoire que d'autres nations plus sûres connaissent peu. Donc là, on retrouve l'incertitude ontologique des petites nations d'Europe centrale qui a été analysée par Gombrowicz, par Kundera et beaucoup d'autres. Mais est-ce que, justement, cette incertitude ontologique de la Pologne, ce provisoire, n'est pas accentué par le fait que Bauman était juif et a grandi dans ce climat d'antisémitisme féroce que tu décris et dont tu montres l'installation?
Absolument oui. Et pour la première question, quand tu poses cette question rhétorique, je peux dire sociologiquement m'en sortir en disant ça dépend. Ça dépend parce que ça dépend dans quelles circonstances, ça dépend et ça ne veut pas dire qu'il est zélig. Ça veut dire que il est trois à la fois, certainement européen, et c'est assez tôt, certainement juif, et c'est toujours. Et il a dit, moi, je pensais que c'est toute ma famille qui avait comme ça, qu'on avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que juste pour ceux qui n'ont pas lu le livre, Bauman, il est né en Pologne, oui, à Poznań. Poznań, 1925, c'est une ville qui est presque pas habitée par la communauté juive en comparant avec des grandes villes polonaises. Et la mère de Bauman, qui a subi un pogrom en 1919 à Włocławek et qui a peur des pogroms avec des enfants, elle s'installe en plein milieu de quartiers où ils sont juifs uniques. Donc il va à l'école, il est seul juif. Donc, ils pensent que c'est eux qui sont comme ça. Moi, quand je parlais, par exemple, j'ai fait un entretien avec Marian Turski. Il a dit, mais c'est incroyable, j'ai jamais vécu des choses comme ça. Mais bien sûr, il est de Łódź, il allait dans une école des communautés, tenue par communauté. Vous avez eu d'écoles juives confessionnelles ou pas confessionnelles du tout, etc. Il y avait plusieurs sortes différentes, mais c'était pas le cas de Bauman. Donc, cette incertitude, il l'a d'après, enfin, c'est la conséquence des choix de sa mère, pas de son père, de sa mère, de se mettre à distance de la communauté. Elle qui lit polonais, qui adore la littérature polonaise, qui se sent polonaise, qui est juive polonaise, mais avec cette articulation d'émancipation. Donc, on ne va pas s'exposer, on va être plus en sécurité en vivant avec eux.
Je cite un passage que tu cites des mémoires de Małgorzata Salanska, où tu parles justement de cette forme de judaïsme qui était un judaïsme très à distance de la communauté, donc loin du shtetl. Nous n'étions pas des juifs religieux, nous vivions comme des chrétiens, nous ne tenions pas une maison cachère, je mangeais de la saucisse de porc et du jambon, et nous n'avions pas de dîner de sabbat ou de shabbat. Nous n'allions pas à la synagogue, même si nous vivions à côté. Le samedi, notre magasin était ouvert, comme presque toutes les entreprises juives de Poznań. Papa le fermait uniquement pendant les grandes fêtes, Nouvel An et Yom Kippour, car il aurait été honteux de travailler ces jours-là. Mais même à Pessah, alors que nous achetions du matzor, nous mangions également du pain au levain ordinaire, impensable pour les juifs religieux, et nous n'avons jamais célébré Shavuot ou Purim du tout. Voilà, et il y a d'autres citations, mais... Et une blague, qu'est-ce qu'un sioniste ? C'est un juif qui utilise un deuxième juif pour envoyer un troisième juif en Palestine.
C'était exactement comme ça. Et c'était une blague très, très courante. Et aussi, je peux dire tout de suite que Bauman, il adorait les blagues. Et ses étudiants, c'était très intéressant, comme on pense pas au contexte, les étudiants britanniques, j'ai fait des entretiens avec certains de ses doctorants, etc., ils m'ont dit, mais ils utilisaient ces blagues, ils disaient ces blagues polonaises, mais en fait, ces blagues polonaises, c'est des blagues qui sont des répertoires ashkénazes, hein. Ce sont des blagues juives polonaises, voilà.
Et donc ce climat, là on parle, lui grandit dans cette forme... on pourrait presque dire, selon la formule de Lévinas, d'athéisme du judaïsme. Et alors, pourtant, il est rattrapé par son judaïsme, par le climat d'antisémitisme. Comme d'ailleurs, expérience similaire racontée par Brandis dans ses mémoires, à peu près à la même époque, où Brandis prend un coup de pierre sur la tête par un de ses camarades et lui dit « t'es un juif » et il a 11 ans. Et lui, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas du tout, ça n'est absolument pas constitutif de mon identité, mais il décrit le climat qui s'instaure. Alors est-ce que, pourquoi on dit que ton livre est un livre sur l'antisémitisme ?
Parce que quand vous le lisez, on voit très très bien que vous passez l'histoire presque d'un siècle, hein. Bauman a vécu 91 ans, il n'est pas seulement en Pologne jusqu'à 68, il revient... Après, en 88, il revient avant encore que ça soit pas dangereux. Il y va dès que c'est possible. D'ailleurs, sa femme, elle est encore sur la liste des personnes interdites en Pologne. Ils attendent à l'aéroport que les négociations derrière vont pouvoir débloquer parce qu'elle peut pas rentrer, quitter l'aéroport. Elle est dans la zone neutre, si ça existe. En tout cas, je montre que autant en Pologne entre deux guerres qu'en Pologne très communiste, donc juste après la guerre, dès qu'il y a les gouvernements qui se mettent en place, etc., 47, 53, 68, autant en Pologne démocratique, c'est-à-dire quand il arrive après, 88, etc., jusqu'à les phénomènes que je raconte la situation au début, c'est 2013 à Wrocław, quand il s'est fait huer, et avec des manifestations d'extrême droite, avec des logos qui sont repris des antisémites, des nationalistes, des fascistes, entre des guerres polonais, les mêmes logos, qu'il n'entend pas très bien parce qu'il porte appareil auditif, mais il voit les gens très agressifs et les logos qu'il connaît très bien de l'enfance. Donc, si vous voyez, s'il y a une constante dans cette société, c'est antisémitisme. Et là, on revient à ce que, dont tu as parlé, de ces pays, petits pays, de l'époque des nationalismes, on doit construire notre polonité, qu'est-ce que c'est en fait, etc. On était partagés et tout. Donc, il y a une chose que tous les régimes savent très, très bien, et Gomułka, d'ailleurs, savait très, très bien. Gomułka, c'est un moment, il arrive au pouvoir 56 avec plein d'espoir que ça va être enfin démocratie, pluripartisme, etc. En fait, récemment après des pouvoirs, et 68 où ça ne marche plus, c'est-à-dire c'est une révolte. Tout le monde est sûr que c'est à Paris les débuts. Maintenant, nous, les Polonais, on était en avance, 2 mois d'avance. Au mois de mars, déjà, ça chauffait. Et les pouvoirs en place savaient que ce n'est pas pour renverser les communismes ou socialismes ou gauche, mais c'est pour renverser la bureaucratie et les gouvernements qui sont en place, en fait. Donc, c'était très sensé. Bauman, il a dit que c'est ce que Karol Modzelewski et les autres ont fait, c'était bête. Après, quand j'ai répété ça à Karol Modzelewski dans l'entretien, il a rigolé. Il avait raison. Oui, c'était bête, mais on était naïfs. Mais ils ont fait la révolution. Et pour se réunir contre les jeunes qui se révoltent, le gouvernement, il savait très, très bien qu'il faut utiliser la carte antisémite parce que c'est une carte qui marche très, très bien toujours. Et ça a marché très, très bien.
Et antisioniste maintenant.
Oui, mais comment on peut l'appeler ça, hein?
Oui, oui, enfin, oui,
bien sûr.
Et alors, deux points à soulever qui sont un peu contradictoires. Mais d'abord, la fidélité justement à cet héritage du judaïsme avec toute la distance que ça implique, la distance intellectuelle de Bauman, parce qu'il ne se définit jamais comme un intellectuel juif, pas plus qu'il se définit fondamentalement comme un intellectuel polonais. Tu montres en plus comment son itinéraire fait qu'il s'arrache peu à peu à toutes les appartenances identitaires pour devenir un sociologue international qui pense la modernité, etc. Mais il reste quand même fidèle à deux grands principes de la pensée juive, le Zachor, souviens-toi, le devoir de mémoire, ou n'oublie pas, mais c'est souviens-toi, et le Tikkun Olam, rend le monde meilleur, ou prend soin du monde, enfin il y a plusieurs traductions. Ça, c'est quand même constitutif de son judaïsme universel.
Tout à fait. Et je ne sais, j'ai pas discuté ça avec lui. Je regrette. Zahor, c'était certainement sa femme. Et si on peut pas, Yanina. Quand je dis après, je dis compagne. Si je parle de,
On finira sur l'amour.
Mais sa femme, avec qui il a vécu 61 ans. C'est celle qui a fait ces formidables et très poignants témoignages. D'ailleurs, à mes étudiants, quand ils veulent comprendre qu'est-ce que c'est endoctrinement communiste, comment c'était la délation au travail, je leur dis de lire les pages dans le deuxième livre de Yanina qui raconte les années après la guerre où elle dit d'elle-même, elle raconte comment elle a fait une délation sur sa collègue de travail, etc., etc., d'une manière très injuste. Pourquoi je dis ça? Parce que Yanina, elle a consacré les dernières années de sa vie à une très, très belle écriture, justement pour passer aux futures générations cette mémoire des Shoah. Plus jamais ça, et n'oublions pas, elle a travaillé aussi avec la maison d'Anne Frank, elle a travaillé en Allemagne en étant à la fin de sa vie, et elle a rencontré beaucoup des lycéens, etc.
Donc avec même beaucoup de mémorial, et puis tu dis qu'elle a été happée par l'Holocauste comme étant un de ses thèmes.
Exactement, et elle a travaillé aussi sur les destins de la communauté rome. Pas seulement sur la communauté juive, elle disait parfois sur les juifs, on est nombreux à travailler, mais voilà la communauté tzigane, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle avait vraiment, les notes dans les archives montrent bien qu'elle a travaillé dessus, elle a publié deux textes là-dessus. Mais donc ça, c'était ça, Par contre, pour Bauman, c'était absolument Tikkun Olam. Et c'était, il a pas fait expressis verbis. Hein, c'était pas, il y a aucun livre directement qui est adressé avec ça. Mais à chaque fois, il y avait cette idée-là. Comment est-ce que le monde, enfin, il est pas génial, mais est-ce qu'on peut pas faire quelque, enfin, il disait, il mettait pas, il donnait pas les propositions.
C'est ce qui explique en même temps sa fidélité jusqu'au bout au socialisme, alors qu'il aurait pu devenir justement un peu comme des Kouakovski ou des Kundera. Kundera, non, je retire de la liste parce que c'est très différent, mais plutôt des défenseurs de l'Europe libre, libérale, etc. Et lui, rester un socialiste malgré tout, alors peut-être que c'est ce soin du monde du Tikkun Olam.
Il voyait, il ne changeait pas, il avait une incroyable colonne vertébrale de ses convictions, mais justement attachée à gauche. Et ça, ça paraissait dans le quotidien aussi. Hein. C'est quelqu'un, si vous voulez, si ça se trouve, il aurait pu être parmi nous, si il aurait pu utiliser. Il était très riche, hein, il a très bien vendu ses livres, il avait la famille qui s'occupait très très bien de ses droits d'auteur, etc. Mais au moment où il est tombé malade, il attendait à l'hôpital dans le couloir. On lui a dit, mais papa, mais on va dans la clinique privée. Vous savez, c'est la situation qui nous hante. En France, on n'y est pas encore, mais en Grande-Bretagne, ils y sont depuis longtemps. Et il a dit non.
Je reste dans le service public.
Pourquoi ma vie est plus vaut plus que d'un ouvrier à Leeds ou d'une personne, etc. Et c'est comme ça qu'il a été mal soigné et qu'il est décédé en 2017, en janvier.
Mais donc sur la fidélité à la fois au Zahor et du Tikkun Olam, et en même temps, je voudrais lire l'avant-dernière page de ton livre. En Israël aussi, Bauman avait l'impression d'être dans une société qui ne pouvait pas se passer du tribalisme à son grand regret. Comme de nombreux intellectuels juifs, il soutenait une vision cosmopolite de l'identité juive. Les juifs n'avaient pas besoin de vivre dans leur propre état. Leur culture pouvait enrichir tout pays dont ils étaient citoyens. Bauman pensait que la diaspora juive avait une mission culturelle et il croyait au pouvoir de l'outsider qui, par la nature de son être, était sensible aux défavorisés et avait foi en un monde meilleur. Et là, tu cites Bauman, donc je lis la citation. « Notre histoire, celle des Juifs, a été une leçon sans fin de ce qui arrive une fois que la race humaine s'effondre en tribus. Le sens de notre histoire est dans cette leçon. Se reconnaître en tant que tribu, comme une tribu parmi beaucoup, nous renonçons à cette signification. Être véritablement juif signifie aspirer à un monde sans tribu, un monde qui ne se divise pas en ma nation et les étrangers. » C'est magnifique.
Oui. Voilà, c'est tout Bauman. Et là, à la fin, on peut dire qu'il était un peu bundiste même, parce que c'est ça, rester là où on est. Il a utilisé la métaphore des locomotives aussi. C'est dans un passage que la communauté juive, par la qualité d'être outsider et discriminé, etc., porte aussi la force d'être la locomotive des sociétés. C'est-à-dire à amener ces sociétés-là vers Tikkun Olam, vers un monde meilleur.
Alors parlons d'amour pour finir, puisque ça fait 45 minutes qu'on discute, et ensuite il y a les questions du public. Et on s'est dit, on ne dépasse pas 1h, 1h10, parce qu'on sait que l'attention des gens ensuite décline, et la nôtre aussi. L'amour, il a eu une longue histoire d'amour avec Yanina, 61 ans peut-être pas de mariage, mais en tout cas de vie commune.
Oh, ils se sont mariés très très vite.
Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce binôme et sur celui hallucinant qui a commencé à 80 ans avec sa dernière compagne?
Avec Yanina, c'était une telle belle histoire et elle était très très belle. Et comme il disait lui-même, c'était une mésalliance parce que lui, il était de famille d'abord Poznań, elle de Varsovie, ça va déjà pas. Et en plus, lui, il était fils d'un commerçant raté, banqueroute, etc. Et d'une maman qui cuisinait beaucoup. Donc, et lui qui aimait les livres, mais bon, c'était fin de mois, était difficile. Et elle, c'était la princesse dans un sens très positif, élevée par les gouvernantes français, d'où français, de la famille très, très connue des médecins, la élite médicale de Varsovie et de la Pologne, les oncles, les tantes, les grands, etc. C'est vraiment une bourgeoisie professionnelle. Et probablement, ils ne seraient jamais rencontrés si ce n'était pas la guerre. Donc, ils disaient qu'ils avaient de la chance. Ils se retrouvent à l'université, sortent des Sciences Po. Elle veut être journaliste tout de suite après la guerre. Lui, tout de suite après la guerre, on ne l'a pas admis à l'université de Varsovie en physique en troisième année parce que c'était encore les anciens qui ne voulaient pas absolument de ceux qui viennent des universités soviétiques. Donc, on lui a dit, tu reprends de début. Il dit, ah, perte de temps, je fais l'autre chose. Donc, il est parti faire Sciences Po et c'est là où ils se sont rencontrés. Et c'est un coup de foudre. Et je peux dire que j'avais l'idée que quelqu'un peut faire un film hollywoodien parce qu'il y a de l'espionnage, il y a de l'armée, il y a
des voyages beaucoup.
Il y a des voyages, il y a après à la fin la gloire et tout ça. C'est vraiment un matériel très très
bon. Tu précises à un moment qu'ils font, je crois, 60 voyages par an.
Ah, ça, c'est à la fin de la vie. Tout à fait. Ça, c'est à la fin de la vie qu'il a fait ça avec sa seconde compagne. Mais en tout cas, avec Yanina, c'était une très, très belle histoire. Et tout le monde à Varsovie la connaissait parce qu'elle était très, très belle. Et c'était vraiment un couple. En plus, avec ça, ils avaient tout de suite un enfant, une fille. Et après, ils avaient les jumelles. Donc, il y avait une blague, je peux vous dire aujourd'hui, j'espère que ça ne va pas être enregistré, on va couper, qu'on disait que Baumann, il fait tout très très bien, même les enfants, parce qu'il fait par double. Voilà, qu'il a une efficacité. Il écrivait énormément tout le temps, il travaillait vraiment beaucoup, c'était un travailleur acharné. Ce qui n'étonnait pas parce qu'il était des Poznan, les Poznaniens sont réputés pour travailler.
Oui, alors là, c'est du prosélytisme. Là.
Voilà. Non, en tout cas, c'était un personnage haut en couleur et ils étaient un couple, vraiment un couple de Varsoviens. Elle travaillait pour Film Polski, c'est-à-dire l'institution unique nationale des films qui produisait les grands films, etc. Et elle était, c'était un couple charismatique. Ensuite, ils vont rapidement. Ils vont en Israël. Elle y va parce qu'elle retrouve toute sa famille avec laquelle elle a survécu pendant le Shoah. Donc, elle se trouve chez elle, elle travaille à Marif, donc dans un journal, etc. Mais lui, très rapidement, il n'a pas de place. Là, je décris dans les détails, donc ce n'est pas la peine que je raconte. En tout cas, ils s'en vont à Litz, aussi pour que les filles n'aillent pas à l'armée, les filles plus jeunes. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que à Litz, Yanina, elle se sent toute seule parce qu'elle ne parle pas anglais. Alors que jusqu'à présent, elle pouvait communiquer. Elle était l'âme de la soirée toujours. C'est elle qui
était. Comment elle fume voilà. Et que.
C'était donc là, du coup, elle est vraiment reléguée. Et lui, il souffre beaucoup parce qu'en même temps, il est directeur de département. Il a plein de boulot à faire. Et il vient et il voit elle toute seule comme ça. Donc, c'est une période très, très difficile pour eux. Après la publication de ses livres à elle, elle retrouve quand même la vitalité. Il prend les soins pour la mettre en valeur, pour que ses livres soient lus, appréciés, etc. Donc, ils ont cette vie. Et après, elle tombe malade. Elle était malade des tuberculoses dans les ghettos. Donc, les vieux, à un moment donné, toutes ces expériences très difficiles de la guerre, ça revient. Et quand elle décède, au bout des 61 ans de vie commune, lui, il se laisse mourir. Et ses filles, elles m'ont raconté qu'elles étaient sûres que c'est fini. Et en même temps, il n'y avait aucune force pour les sortir de là. À un moment donné, il a décidé où je finis, où je recommence, où je vis, voilà. Et là, il va être décoré par la plus haute décoration polonaise. Ça arrive aussi, hein. Il n'y a pas que des malheurs, mais on les vit. C'est 2010. Et là, il rencontre une collègue des laboratoires de Pologne.
Il la retrouve plutôt, parce que ça fait très longtemps qu'ils se connaissent.
Oui, c'est elle qui le retrouve plutôt. Elle qui les retrouve, elle voit son ami, grand sociologue, en souffrance totale. Elle est veuve depuis 15 ans. Et elle partage avec lui son expérience. Et elle lui accompagne d'un deuil, en fait. Donc, ils sont ensemble d'abord en tristesse. Et après,
et
ça
un moment,
devient...
Voilà. Non, mais surtout d'un jour à l'autre, il la demande en mariage.
Et il la demande au mariage, oui. Et ils ne se sont pas mariés tout de suite. Il l'a demandé au mariage. Et il passe toute sa vie avec elle, en essayant aussi de la... elle écrit, elle est toujours...
On peut la nommer quand même.
Oui. Aleksandra Jasińska-Kania. Elle est sociologue. Elle était professeure à l'Université de Varsovie. Donc, elle déménage à Leeds, alors que les filles, elles m'ont dit, un moment, on a pensé que papa va retourner en Pologne, qu'ils vont vivre là-bas, parce qu'elle a son appartement, bien évidemment, etc. Donc, ils vivent à Leeds, dans, toujours dans sa maison. Et ils écrivent, enfin, ils travaillent, il y a tout un rythme des journées qui fait. Donc, ils retrouvent toute la vitalité. Et en même temps, elle qui est russophone, et aussi comme lui, même avec des expériences de la vie, elle est un tout petit peu plus jeune, mais elle était dans un orphelinat, vous savez, à côté de Moscou, il y avait un orphelinat pour les enfants des dirigeants communistes. C'était pas un vrai orphelinat, mais c'était une maison de l'enfance où les dirigeants du monde entier envoyaient leurs enfants parce que souvent ils leur arrivaient d'être en prison. Donc, pour que les enfants soient élevés en pleine préparation pour un monde meilleur communiste entier, ces enfants-là étaient, et Yashinska Kanya, c'est un enfant comme ça. Donc, elle parle parfaitement russe. Donc, il se retrouve sur cette culture russe qui a ce côté aussi joyeux, si vous voulez. Et c'est elle qui accompagne, donc, dans les dernières années de la vie de Bovan.
Une dernière petite citation avant les questions du public sur l'amour. Bon, dans le dernier chapitre où tu commences par cette anecdote en disant qu'ils ont une adresse mail. Alors quand il était avec Yanina, sa première femme, leur adresse mail c'était yanzigbo@yaninazigmundboman. Donc tout était mêlé jusqu'à l'adresse mail. Et sur l'amour, une citation de Bowman. C'est quelque chose qui a toujours besoin d'être renouvelé et refait chaque jour, chaque heure, en permanence ressuscité, réaffirmé, assisté et soigné. Et ensuite, je t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que je te souhaite tout ce qui est bon. Je veux que tu sois heureuse. Pour appuyer mon souhait avec un acte, je dois créer un idéal de ta personne. Cette autre personne, celle qui est ton bonheur, est l'image de ce qui est bon pour toi. À un certain point, par amour pour toi, je suis convaincu que je sais mieux que toi ce qu'il faut faire pour te rendre heureuse. Je marche sur ta liberté. Au nom de ton bien-être, je veux te forcer à faire autre chose que ce que tu voudrais faire. Que se passe-t-il si, au contraire, je mets ta liberté au-dessus de toute autre considération ? Donc, il montre bien le soin permanent qu'il avait peut-être aussi dans l'amour, qui est presque un soin...
Et là, il se confesse parce qu'il souffrait tellement des... absence de Yanina qui était très courte. Une fois par an, elle allait en Israël pendant 2 semaines vers le Pâques pour voir sa fille, ses petits-enfants, etc. Et il était tellement malade et tellement mal qu'à un moment donné, il ne pouvait plus aller. Donc, quand il parle de contrôle, c'est ça. C'est-à-dire, quand il voyageait, elle était toujours à côté parce que, justement, c'était une telle fusion qu'ils n'arrivaient pas à vivre autrement.
Alors, comme dans les assemblées générales communistes, la parole est à vous. Donc, il suffit de lever la main et on vous donne le micro.
Oui, c'est une question un peu naïve de vocabulaire. Ulysse, vous avez présenté le livre de Madame Wagner en disant qu'il s'agissait d'un livre sur l'antisémitisme. Alors, je voulais juste savoir d'où vient ce mot étrange antisémitisme, parce qu'on n'entend pas dans ce mot la notion de juif. Moi, naïvement, je dirais anti-juivisme, je comprends, mais antisémitisme, je ne comprends pas. Bon, je sais bien que c'est un Allemand qui s'appelle, je crois, Wilhelm Marr, vers 1870, qui a créé antisémitisme, mais ça fait allusion à un mot de linguistique, les langues sémites, donc je ne comprends pas bien. Et en annexe à cette question, je remarque que quand il y a des manifestations antiracistes, on dit souvent « manifestation contre le racisme et contre l'antisémitisme », comme si l'antisémitisme, c'était quelque chose de spécial qui ne faisait pas partie des luttes contre le racisme. Pourquoi ajouter une catégorie spéciale antisémitisme aux manifestations contre le racisme ?
Alors, voilà. il y aura une réponse. Je vous réponds en vous disant que beaucoup de malentendus humains sont basés sur des malentendus linguistiques. Moi, je préfère à l'antisémitisme l'usage de judéophobie, mais parce que c'est vrai que les sémites, ça peut aussi considérer... Vous savez, il y a même... Moi, je produis un documentaire sur les chrétiens d'Orient. Par ailleurs, c'est un autre travail. Et certains chrétiens d'Orient disent « Mais nous, on est des sémites ». Donc, il est vrai que la question du sémite dépasse très largement la question du juif. Cela dit, c'est dans l'usage contemporain. On peut dire judéophobie ou antisémitisme. Moi, ça ne me choque pas. On voit de quoi on parle. Voilà. Mais c'est comme la question de l'islamophobie. Est-ce que l'islamophobie, c'est la détestation de l'islam, la religion, ou est-ce que c'est la détestation des musulmans? Vous voyez, après, comme disait Bergson, si on pose bien les questions avec des bons termes, on les résout aussitôt.
Oui, j'ai trouvé tout ça très intéressant et j'ai bien envie de lire le livre. Alors j'ai deux questions, ou plutôt une question et deux commentaires. Le commentaire, c'est bon, la tonalité générale, c'est, me semble-t-il, et c'est peut-être ou là le fait qu'un tel échange se passe pendant peu de temps, en une heure, c'est la tonalité d'une dominance de l'antisémitisme en Pologne. Or, la Pologne, c'est pas que ça, et tu le sais très bien. Bauman lui-même, dont on fait un juif, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, ses mémoires le montrent et le prouvent, et le livre aussi, mais quand même, il a été le pape de la sociologie polonaise dans les années 60. Il a écrit un traité de 4 volumes que tous les étudiants de sociologie lisaient. C'était vraiment un dieu. Donc, être un dieu dans un contexte antisémite, c'est bon. Il y a une sorte de petite contradiction que, je crois, l'espace d'une heure ne permet pas de délivrer. Voilà. Alors, voilà, je voulais dire ça. Je voulais aussi dire que... oui, j'ai une question. La question, c'est... il y a eu une pointe contre Kołakowski et je n'ai pas compris pourquoi. Voilà ma question.
Pointe contre Kołakowski, c'était tout simplement une... c'est pas vraiment une pointe, c'est-à-dire Kołakowski, il est... est glorifié en Pologne, c'est-à-dire on l'excuse absolument de son engagement premier vers les communistes qui était très, très agressif. Et après, je raconte l'histoire de leur amitié. On oublie, en mentionnant Kołakowski, qu'il y avait d'autres opposants au moment où Kołakowski a laissé sa première croyance et il devient... critique envers les pouvoirs. Il y a d'autres personnes qui sont critiques en 1956 et ça a complètement été évacué de mémoire. Par exemple, pour Bauman, on dit rarement qu'il a pris part dans octobre 1956, etc. Et pas seulement Bauman. Il y avait aussi Viatre, par exemple. Voilà. Mais Viatre, après, quand Schaff a serré les rênes, Viatre, il s'est rangé de nouveau, c'est-à-dire c'était et Bauman, non, pas vraiment, il n'a jamais reculé, c'est-à-dire ce qu'il a dit, qu'il fleurisse mille fleurs, c'est que justement on a la multiplicité des visions, des marxismes, etc., la diversité, et puis c'est une ouverture, une belle ouverture. Donc ce n'est pas ça. Et après, Kołakowski devient critique de système de gauche, communiste, anti, etc. Et c'est là où il est supporté et mis en valeur comme une grande personnalité en Pologne. Et bien sûr qu'une société, on ne peut pas la réduire à une position politique, etc. Mais on parle d'une constante dans la culture. Et quand ça a été relâché, Bauman, il a pu faire sa carrière. Et en effet, il était très populaire et tout le monde l'a lu. Et il était, c'est ce que je raconte ici. Mais en même temps, dans les archives des services secrets, on voit que ce n'est pas tout d'un coup en 67 qu'il devient indésirable, etc. Et ce n'est pas tout d'un coup à ce moment-là qu'on va dire il est juif, etc. Donc il y a une partie qui est tout à fait constante, et c'est dans les institutions gouvernementales et aussi dans la société.
Une dernière précision sur Kołakowski aussi. Kołakowski, bon, la différence, c'est qu'il était chrétien, et il y est même revenu ardemment à la fin de sa vie, puisqu'il a fait quasiment une théorie... Enfin, non, pas quasiment, il a fait une théorie du christianisme. Mais par contre, il a été, me semble-t-il, beaucoup plus un pourfendeur du soviétisme et du marxisme que Bauman, puisqu'il a écrit non seulement Le village introuvable, qui est quand même un texte fantastique, toujours pas traduit en français, sur le village introuvable, c'est le village communiste, le village de l'harmonie ou de l'utopie ou de l'idylle. Et puis il a fait son histoire du marxisme en 3 tomes, dont on n'a que les deux premiers tomes traduits en France, mais pas le troisième, parce qu'il s'attaquait à l'intelligentsia française, c'est-à-dire les maoïstes, les staliniens, les trotskistes, même de l'école normale supérieure, avec Merleau-Ponty, Sartre, etc. Et il montre l'abjection de l'engagement de ces intellectuels. Donc ça n'a pas été publié parce qu'on a dit pas de vague. Mais ce qui est fantastique, c'est que Kołakowski est quand même le seul... Enfin non, pas le seul, il y en a eu d'autres, mais disons le plus puissant qui a montré que dans le rêve marxiste, dans le romantisme marxiste, il y avait déjà en germe le stalinisme et les goulags. Ce qui est une pensée absolument scandaleuse à l'époque, mais il dit, dès qu'on fonde une politique sur un idéal, sur une promesse de résolution, d'harmonie, d'utopie, etc., ça ira forcément vers l'enfer. Donc c'est un anti-idéaliste absolu. C'était un réaliste, un sceptique, etc. Et moi, je trouve l'œuvre de Kołakowski vraiment géniale, mais elle est assez radicale. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Après, on boit un verre. Alors...
Oui, c'est mon côté polonais, justement. Plus on boit, plus j'ai soif. Plus on parle, plus j'ai soif. Isabelle, est-ce que tu veux un mot de conclusion ? Ah, pas de conclusion ? Alors, un mot. Et je précise avant le mot d'Isabella que, évidemment, les livres sont en vente juste derrière. Je vous invite vivement à vous le procurer. Je remercie Charlotte. Je remercie la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Et je remercie Isabella pour cette chaleureuse conversation. Et vous tous, tu as le mot de la fin.
Merci beaucoup. Je me joins à tous ces remerciements. Merci à toi. Mais je voulais dire les derniers mots. Et ce n'est pas celui d'aller acheter les livres. Lisez les livres. Lisez les livres, s'il vous plaît. C'est un livre lourd. Je suis très reconnaissante parce que c'est unique édition. Il y en a d'autres éditions. Il y en a en anglais, en espagnol, en portugais, en coréen. Bientôt en turc, etc., enfin, en chinois, et j'ai oublié quelque chose, et en polonais. Les livres en polonais, il est plus large parce qu'on ne m'a pas coupé. Là, c'est un tout petit peu réduit, mais ce n'est pas grave du tout. Et ici, c'est la plus belle édition, et je suis très reconnaissante à la Maison des Sciences de l'Homme parce que vous avez les notes des bas de page en dessous. Alors, afin que ce miracle pouvait se passer, je voudrais remercier quelques personnes et je vous rassure, ça ne va pas être comme dans les Oscars. Alors, tout d'abord, mon directeur de thèse, merci beaucoup, parce que si je ose de dire que j'ai appris un tout petit peu de rigueur, c'est de vous. Merci. Et merci aussi à Aneta Bassa qui est là et qui a signalé qu'il y a un livre comme ça, à la direction des messages, etc. Et en effet, c'était un pari qui n'est pas évident parce que Bauman, il est peu connu au niveau sociologique, mais ça va venir parce que président Macron il utilise les termes société liquide, préparez-vous. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui vous attend, allez-y. Il y en a 20 titres avec liquide. Ici, il y a aussi l'amour liquide. J'aime beaucoup ce livre et mes étudiants aussi. Je vous recommande l'amour liquide de Bauman. Et sinon, pour terminer, je voulais dire que ce livre, en français, mais même en anglais et même en polonais, ne pourrait pas être là si ce n'était pas mon mari et le soutien de ma famille, mais surtout de mon mari. Parce que je crois que s'il y a une autre personne qui connaît si bien la vie de Bauman que moi, c'est lui. Et merci beaucoup, Philippe, pour tout ce que tu as fait. Donc, merci pour vous tous d'avoir passé ces moments. Merci. Et Bauman était très bon vivant. Il avait 91 ans et il disait que le tabac tuait, il n'aurait pas été là parce qu'il fumait tout le temps à partir de l'âge 14 ans. Il buvait pas mal et il produisait lui-même son cognac qui s'appelait Baumagnac, du vin, etc. Donc, pensez à lui en buvant le verre offert par la maison. Merci beaucoup. Merci.